Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Fatima Afif est embauchée dans une crèche à Chanteloup-les-Vignes en 1992 comme directrice adjointe. Elle porte alors un foulard. À son retour d'un long congé parental entre 2003 et 2008, elle est informée qu'un nouveau règlement intérieur ne l'autorise plus à garder son foulard. C'est alors que commence l'affaire dite de la crèche Babylou. Car Fatima refuse d'ôter son voile, est mise à pied puis licenciée pour faute grave. Les 10 ans de batailles juridiques et médiatiques qui s'ensuivent commencent en mars 2010 avec la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qui condamne la crèche pour discrimination. Mais en décembre, le Conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie donne au contraire raison à la crèche et estime que Fatima a fait preuve d'insubordination caractérisée et répétée. Un an après, la Cour d'appel de Versailles confirme ce jugement, mais la Cour de cassation l'annule. Elle considère que le licenciement de la salariée est discriminatoire et donc nul. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris. Retour à la case départ. La crèche Babylou peut être qualifiée d'entreprise de conviction, ce qui lui donnerait le droit d'exiger la neutralité de ses employés. Le licenciement est confirmé définitivement. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. 6 audiences et jugements plus tard, l'affaire va jusqu'au Comité des droits de l'homme de l'ONU qui contredit en août 2018 le dernier jugement français et estime que le licenciement de cette dame est une atteinte à la liberté de religion, invitant Paris à indemniser la salariée. Même si cet avis n'est pas contraignant, la Cour de cassation devra en tenir compte. L'affaire n'est donc toujours pas réglée. Samedi dernier encore, 2 jeunes femmes se sont vues refuser de participer à une braderie organisée par une association caritative lilloise en raison de leur foulard. La directrice filmée par les jeunes filles vaut le coup d'œil si vous vous intéressez aux préjugés racistes décomplexés. Tout de suite donc dans les pieds sur terre pour éclairer un débat qui ne se calme pas, mettre son voile ou l'enlever, 3 histoires à la première personne par Karine Lelouet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc là, j'ai des petits mocassins beige, un petit pantalon un petit peu ample, noir, une chemise blanche et un voile blanc. C'est tous les jours que je m'habille comme ça. De façon occidentale, comme on peut dire. J'essaye de m'habiller colorée, passe-partout, parce que je sais l'opinion qu'on a du voile et je veux m'intégrer et montrer une autre image, justement, de la femme musulmane et de la femme musulmane voilée. Alors, je m'appelle Camille, je suis étudiante en biologie à Grenoble et j'ai 22 ans. Alors ma mère, elle est née dans une famille de 13 enfants, à Alger, d'une famille bourgeoise. Et c'est toujours les filles qui s'occupaient de la vaisselle, du ménage, enfin voilà. Et elle, elle n'a jamais accepté ça. Même le fait de porter une robe longue traditionnelle, elle n'a jamais accepté ça. Donc du coup, comme elle montrait son opposition à tous ces faits traditionnels, et eh ben ses frères lui faisaient la misère. Et quand elle s'est mariée, donc avec mon père, mon grand-père n'était pas trop d'accord. Mais ma mère s'est quand même mariée, elle est arrivée en France. Sa belle famille lui a fait la misère parce que ma mère portait des jupes au-dessus du genou, invitait mon père à faire la vaisselle avec elle. Ma grand-mère, quand elle a vu ça, elle n'a pas accepté. Vraiment, elle a eu des années de mariage très, très, très noires. Voilà, et ensuite, elle a divorcé. Et c'est de là, en fait, vraiment, où elle a arrêté vraiment de pratiquer la religion islamique. Parce que ben, je pense qu'elle a eu une saturation, et c'est compréhensible. Du coup, elle m'a donné une vision un peu péjorative de cette communauté. Et mon père m'a jamais parlé de la religion. Voilà, du coup, j'ai été éduquée dans une éducation non religieuse du tout. Ma maman m'a toujours partagé sa foi en Dieu, en un Dieu. Mais jamais une religion. Elle me disait, Dieu m'a toujours sauvée. Je sais que Dieu existe, mais je ne me suis jamais dit, je suis musulmane. Ouais, du coup, quand j'étais petite, je parlais à Dieu comme si on parle à son confident ou à son nounours, je sais pas, mais... voilà, j'ai toujours parlé à Dieu, comme ça. Et donc, il y a 5-6 ans, j'étais dans la rue toute seule, du coup, je marchais rejoindre ma mère, et donc c'était à Grenoble. Et là, il y a un homme qui s'approche de moi en me disant des paroles assez obscènes. Et il se rapproche de moi de plus en plus en me touchant les fesses. Et là, j'ai vraiment eu peur. Ça a duré au moins 5 minutes, mais c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Et je lui ai dit, j'ai pas le temps, j'ai quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ça. Et là, il est parti. Et j'ai couru vers le lieu de rendez-vous avec ma mère. Et je lui ai raconté ça. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, ça arrive. Voilà. Mais sur le moment, elle m'a pas trop parlé, elle m'a rassurée. Hein, voilà, elle a fait son devoir de mère. Mais c'était plus le soir où elle avait senti que j'avais... qu'il s'était passé quelque chose dans ma tête. Et elle m'a dit, Camille, tu penses au voile? Et j'ai dit, oui, maman. Elle me dit, mais c'est pas le voile qui va te protéger envers les hommes. Je dis, je sais pas. En fait, c'est à partir de ce jour-là où j'ai pensé au voile. Mais justement, je pratiquais pas du tout. Et j'ai acheté mon premier Coran en cachette, je me rappelle, sur Internet. Et quand je l'ai reçu, j'étais affolée. Mais quand je l'ai lu, je l'ai montré à ma mère et elle s'est pas alarmée. Et quand il y a eu les premiers attentats, elle a commencé à lire le Coran avec moi. Et je pense que c'est parce qu'elle a eu peur que je vire vers l'extrémisme. On était ensemble dans le lit, on lisait le Coran toutes les deux. Elle me disait, et toi, tu comprends quoi, là, dans ce verset? Et là, il dit quoi? Pour toi, ça veut dire quoi? C'était vraiment une discussion entre mère et fille pour que je vire pas, entre guillemets, quoi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, donc ça a duré quelques années comme ça. Et moi, l'idée du voile m'était partie de la tête. Et après, je suis allée à la fac. Et la fac était assez loin de chez moi. Du coup, j'ai pris un appartement sur l'université. À cette période-là, ma maman, elle a vécu beaucoup de choses difficiles professionnellement et personnellement vis-à-vis de sa santé. Et j'ai beaucoup prié Dieu à ce moment-là et tout s'est exaucé. Et après, enfin moi, je l'ai interprété comme un signe. Et c'est là, donc le 29 février, que j'ai décidé de porter le voile. Ouais, on avait passé une semaine au ski et cette semaine elle était tellement agréable que je voulais pas la gâcher. En fait, j'arrivais pas à lui dire, maman, j'ai envie de porter le voile. J'avais tellement peur de ma mère et j'ai toujours peur de ma mère. Du coup, je suis rentrée chez moi, donc à l'université, le 28, et le lendemain je l'ai porté. Voilà, c'est pour moi, c'était un jour, un nouveau jour. Voilà, la rentrée. Enfin, le pas de le porter, c'est une relation verticale avec Dieu. C'était une preuve pour Dieu. Et je ne l'ai pas dit physiquement à ma mère. Je lui ai écrit une lettre d'une page et demie en lui expliquant tout. C'est-à-dire de mon enfance au jour J. Une énorme lettre, enfin, dans le sens de l'intensité des mots. Voilà, je n'oserais pas la relire maintenant. Et le week-end, j'allais rentrer chez ma maman. Je stressais, mais d'une façon assez conséquente. D'autant plus que, en fait, je suis rentrée dans l'appartement avant elle, qui est au boulot. Je l'ai vue, elle était dépitée. J'ai vu sa tête, elle avait le visage beaucoup plus ridé, enfin, triste. Je me suis dit, oh purée. Ça a duré 2 ans, cette tête dépitée. C'était une période très très dure. Plus les jours passaient, plus les mois passaient, plus je me sentais bien dans mon voile. Et plus j'avais les réactions de la communauté musulmane assez cool. Enfin, je m'attendais pas à des salem dans la rue, salem, salem. Et je me suis dit, mais parce que je porte le voile. Avant de le porter, on me reconnaissait pas. Et maintenant que je porte le voile, on me reconnaît. En portant le voile, je pensais pas du tout au comportement négatif. Enfin, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Des gens à vélo qui m'insultent. Mais comme ils sont à vélo, ils en profitent. Parce qu'ils se battent après. Et qui m'insultent voilà, rentre chez toi. Oh là là, il y en a marre de ces Arabes. Mais ça me fait rire.
Et vos relations avec votre mère aujourd'hui, elles sont un peu apaisées ou pas ?
Apaisées, oui. Après, il y a toujours des discussions assez virulentes, voilà. Mais c'est un travail de tous les jours, on va dire. C'est un travail de tous les jours de ma part, de lui montrer que je n'ai pas changé, que je l'aime toujours autant, que je resterai toujours sa fille. Si je lui montre ça tous les jours, je pense que ça va changer. Je pense, j'ai espoir.
Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans, je suis kinésithérapeute et j'habite à La Roche-sur-Foron. Donc ma maman était témoin de Jéhovah. Pour moi, en tant que jeune adolescente, c'était beaucoup d'interdits. Tout ce que je pouvais dire était remis en cause. Des choses très très bêtes comme « j'adore le chocolat », « non, tu n'adores que Dieu ». Comme, je ne sais pas, je regarde une série, Les Sœurs Halliwell, où il y avait des sorcières, donc c'est satanique. Ce qui aurait dû être léger était pointé du doigt avec beaucoup de sévérité. Pour moi, à ce moment-là, la religion avait quelque chose de très intolérant, très rigide, très fermé, très sectaire en fait. Vraiment, ma réflexion sur la religion plus profonde, elle a commencé avec mon travail en fait. Quand j'ai commencé à travailler en réanimation pédiatrique, où j'avais beaucoup d'accompagnement de fin de vie, ce qui me sautait aux yeux, c'était que les familles croyantes avaient une force que n'avaient pas les autres. Peu importe la religion, islam, judaïsme, christianisme. Et j'ai toujours côtoyé des musulmans. Et j'ai fait depuis mes 14 ans des sports de combat. Donc j'étais dans un milieu où il y avait une grande proportion de musulmans. Et j'avais du mal à ce moment-là avec ce qui pouvait amener sur... la femme, le voile, et ça m'a posé question. Donc j'ai commencé à lire sur la religion, la position de la femme en islam. J'étais très curieuse en fait. Et plus j'ai lu, plus je trouvais des réponses à toutes les questions que je me posais finalement à l'hôpital au quotidien. Et donc je me suis convertie en fait. Il y a des choses qu'on peut faire seule et puis après il faut faire vraiment... avec un imam en fait qui m'a demandé de réciter ce qu'on appelle la profession de foi, donc une phrase en arabe qui veut dire que je crois en Dieu et en son messager, voilà. Donc ça faisait 3 ans que j'étais convertie, que j'avais essayé de mettre en place en tout cas la pratique entre guillemets minimale, donc ce qu'on appelle vraiment les piliers de la foi, donc prier 5 fois par jour, faire le ramadan et puis dire ce qu'on appelle la shahada, la profession de foi. Et pour prier, on doit se voiler le temps de la prière. Pour aller à la mosquée, on se voile. Enfin, il y avait beaucoup de moments, finalement, où dans ma journée, déjà 5 fois par jour, je mettais le voile. Je sentais qu'à chaque moment où je le portais dans la rue, enfin, finalement, sur le trajet pour aller de ma voiture à la mosquée, j'avais un apaisement. Il m'apportait quelque chose. J'étais pas capable de définir quoi, mais je me sentais mieux, je me sentais... c'était mon identité en fait. Je m'appelle Stéphanie, je suis blanche de peau. Il n'y a rien qui dit que je suis musulmane. Et quand je le portais, j'avais l'impression d'être alignée. Donc j'étais kinésithérapeute. Puis au moment où la question du voile elle s'est posée, j'avais la chance d'avoir un contrat qui était un contrat privé de laboratoire pharmaceutique dans un centre de recherche. Mais nous travaillons dans un hôpital public. Donc j'avais plus un statut de fonctionnaire d'État qui là impose la neutralité. J'avais vraiment un statut en fait entre les deux. Et je suis partie en formation à Londres au moment du Ramadan. Donc je me suis dit, je vais trouver un événement ou quelque chose où je puisse aller jeûner, enfin rompre le jeûne avec d'autres personnes. Et je me suis retrouvée donc à me dire, bon bah si c'est dans une mosquée, j'avais pas compris exactement où c'était, je dois arriver voilée. Donc j'ai mis mon voile en sortant de l'hôtel et j'ai eu une heure de trajet comme ça pour aller juste au lieu de rendez-vous. Les regards étaient pas du tout pesants, c'était pas comme dans la rue en France, c'était... voilà, les gens faisaient leur vie... Je me suis sentie très à l'aise. Ma formation était finie, je restais 3 jours de plus pour visiter. Je me suis dit, bah, autant le porter les jours suivants. Et donc, je suis restée à porter le voile et sans sentir ni aucune gêne, ni c'était facile en fait. Et puis, rentrant en France, je me suis dit, non, mais finalement, de ne pas le remettre arrivé en France, j'avais l'impression de mentir, de me cacher, de ne pas assumer mes choix. Donc en rentrant, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas ne plus le porter. Donc j'ai commencé à le mettre en allant au sport. À ce moment-là, je faisais de la boxe thaï. Donc mon entraîneur était musulman, la moitié du club était composée de musulmans, donc c'était facile. Et eux savaient que j'étais convertie. Et puis je me suis dit bon, je vais le mettre pour aller au travail. Je l'enlèverai au moment où j'arriverai. Donc au départ, j'avais peur qu'on me croise dans la rue. Et puis finalement, bah une personne me croise, deux personnes. Et puis je me dis bah au moins voilà, ils vont savoir. Je l'ai enlevé de plus en plus tard. Je l'ai enlevé dans l'ascenseur. Donc là, d'autres collègues me voyaient et me disaient « Mais pourquoi tu l'enlèves ?» Donc je me suis dit « C'est bien, on va pouvoir en discuter. » De leur peur, de leur crainte, de leur incompréhension. Puis je leur dis « Bah non, vous voyez, ce choix de me convertir, je l'ai fait seule. J'étais pas mariée. Je porte le voile, je suis toujours pas mariée. » Donc voilà, c'était... vraiment, ça me permettait moi aussi de m'affirmer et puis de déconstruire des idées. On est parti en Espagne, un premier congrès à l'étranger. Je me suis dit, bon, il n'y a pas mon chef, donc je vais le garder. Et en fait, mon chef était représentant de 2 lieux. Et je ne savais pas qu'il serait là. Et je me suis retrouvée nez à nez avec lui, avec mon voile. Donc il est là, j'ai mon voile. Maintenant, il faut que j'assume, même devant lui. Et donc, il s'est bloqué, il m'a regardée. Et puis, on est passé à autre chose. Il n'avait pas le temps, de toute façon. Donc là, ça a été la première, voilà. Mais on était en Espagne. Tout s'est très bien passé. On rentre et là, je me dis, mais au travail, en France, à l'hôpital public, j'avais encore du mal. Et puis, on est parti en Lituanie. Et en Lituanie, on était là pour apporter une expertise sur des maladies. Moi et l'autre femme médecin, qui était la deuxième responsable, en fait. Ça se passe très bien. Il y avait des médecins, là, pour le coup, dans la salle de conférence qui était voilée. Donc, avant de rentrer, j'ai explosé en sanglots devant ma collègue et je lui dis, je peux plus faire semblant. Soit, tant pis, je démissionne, mais en tout cas, j'étais prête à perdre mon travail pour porter mon voile. À ce moment-là, on était donc en novembre 2016. Ça devenait viscéral et puis je me suis dit, voilà, il y avait une grande réunion où il y avait tous les représentants de notre boîte qui étaient là. Et je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire devant tout le monde. Comment ça sera fait? J'étais angoissée, la boule au ventre. Quand je suis arrivée dans la salle, vraiment, c'était la panique. Franchement, pendant les 3 nuits avant, j'ai quasiment pas dormi. Mais je me suis dit, maintenant, j'avais le cœur qui battait à 3000 à l'heure. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes en rentrant dans la salle. En sachant qu'en plus, c'était pas 3-4 personnes, quoi. C'était tout le monde. Puis je me suis assise dans la salle, toute seule. J'ai cherché personne que je connaissais. Et je me suis dit, bon, c'est fait. Ça y est. Maintenant, tu l'as mis, tu l'enlèveras pas. Ce jour-là, mes 2 chefs principaux n'étaient pas là. Et je les ai croisés le mercredi. Donc mercredi, c'était notre grosse journée de consultation où moi, j'intervenais beaucoup avec les enfants. Et là, je suis tombée nez à nez avec une des responsables médecins. Et elle me dit, Stéphanie, t'as mis ta blouse à l'envers. Donc, aucune réflexion sur le voile. Et j'ai porté mon voile comme ça pendant plusieurs mois sans finalement avoir aucune réflexion. Jusqu'à ce que le médecin-chef me dise à mon entretien annuel « Le coup du voile, t'aurais pu me prévenir. » Et je lui dis « T'aurais dit quoi ?»« C'est comme ça ? Qu'est-ce qui serait passé ?» Et puis il m'a dit de toute façon qu'on est tous les deux les textes de loi. On est dans un espace hôpital public, donc je pourrais quand même faire jouer. Moi, au final, il me dit c'est une guéguerre où on va perdre du temps et de l'énergie, donc je préfère qu'on garde notre énergie pour les enfants. Et à partir de ça, c'était passé. J'ai eu aucun souci au travail, aucune réflexion, aucune remarque, de la curiosité. Certains parents qui m'ont posé la question franchement, vous êtes convertis, vous êtes... Puis je leur disais oui, mais bien avant que vous me connaissiez. Et je suis la même, juste je porte un turban et... Je suis consciente que j'ai quand même une chance, c'est que je m'appelle Stéphanie et que je suis blanche. Et je pense que la plupart des femmes voilées qui ont des soucis sont aussi racisées. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis. J'espère ne jamais avoir à le retirer. C'est pas mon souhait. C'est vraiment, je me sens alignée et congruente, quoi. C'est voilà, c'est moi, c'est ma place, c'est je suis moi.
Je m'appelle Selma, j'ai 23 ans, je suis franco-algérienne de confession musulmane. Je suis étudiante en études sur le genre et en études anglophones à l'université Bordeaux-Montaigne. Et voilà. Ma famille était et toujours en fait très pratiquante. Une semaine après ma naissance, mon oncle est mort. Et du coup, la religion, en fait, ça a été un moyen assez sain en fait, pour ma famille de faire face à... Alors, deuil, et j'allais à la mosquée tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Et j'avais grandi également dans un quartier qu'on considérait défavorisé, avec plein de Nord-Africains, de Turcs et de diverses communautés musulmanes. Et donc voilà, ça faisait partie de mon quotidien, quoi. Et j'avais l'habitude de porter le voile tous les week-ends quand j'allais à la mosquée. C'était pas du tout une obligation, on venait vraiment comme on voulait s'habiller. C'était juste que, enfin, j'adorais les voiles de ma mère. Elle avait vraiment plein de couleurs différentes. Et j'adorais en fait chaque week-end les porter. J'ai toujours eu la conviction qu'on pouvait être musulmane sans porter le voile. C'est juste que, ben voilà, c'était un choix que j'ai fait. Plus j'ai grandi et plus j'ai trouvé ma place dans ma communauté religieuse. Et en fait, c'était de plus en plus logique pour moi, enfin, de garder le voile, et ça faisait partie de mon identité. Et je me rappelle, c'était le premier jour du Ramadan. En fait, je l'ai gardé en sortant de la mosquée. Il me semble que c'était les vacances aussi. Et il restait plus qu'une semaine de vacances. Et après, c'était la rentrée. Et j'ai juste continué à le porter. Et donc, mes parents n'étaient pas vraiment d'accord, parce que c'était après la loi de 2004, du coup, qui interdisait des élèves, en fait, de porter le voile au collège ou au lycée. On me disait que je devais l'ôter devant la grille. Et je me rappelle avoir été en retard à un moment donné. Du coup, je courais avec une amie et on est rentré dans la cour. Et j'ai complètement oublié que je le portais, en fait, parce que ma priorité, c'était d'être en cour et de ne pas être en retard. Et la CPE qui me dit « Mais Selma, c'est n'importe quoi. Faut que tu l'ôtes tout de suite. Tu enfreins le règlement. » Et ça, c'est toujours, en fait, des humiliations, en fait, publiques devant tout le monde. Et donc, on me faisait des réflexions de temps en temps. On m'appelait la terroriste. C'était pour rire. Et honnêtement, je rigolais, en fait. J'étais lycéenne, donc j'en rigolais. Je pensais que c'était pas trop méchant. Et quand j'y repense maintenant, enfin, c'est complètement ouf, quoi. C'est inacceptable. Donc, après le lycée, je suis allée à Strasbourg pour faire une licence d'anglais. Pouvoir porter mon voile en cours, ça m'a beaucoup fait de bien. Et les choses se sont compliquées parce que du coup, je devais quand même travailler à côté pour pouvoir subvenir à mes propres besoins en tant qu'étudiante. Et que ce soit en restauration, des petits jobs à chaque fois. Alors oui, nous retenons votre candidature. Du coup, vous pouvez commencer dès telle date. Le seul souci, ce sera le turban. Est-ce qu'il vous serait possible de l'ôter ? Je répondais non, tout simplement. Et je continuais malgré tout à chercher. Il y a une entreprise privée en fait en télémarketing qui m'avait recrutée, parce que c'était aussi au téléphone. Mais sinon en fait, ça a été très 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 difficile. Et effectivement, j'acceptais pas de l'ôter. Je pense que l'élément déclencheur, en fait, c'était en dernière année du coup de L3. J'étais bénévole au Mouvement d'Uni, qui est une association qui accompagne les personnes en situation de prostitution, c'est comme ça qu'elles appellent ça. Et c'était la première fois que j'allais en fait intervenir dans une école avec d'autres bénévoles. Et je portais un turban ce jour-là, et on venait d'entrer, et c'était un lycée privé. On venait à peine d'entrer et on me dit oui, bonjour, merci beaucoup d'être venu. Alors en fait, si ça vous dérange pas, on va vous demander d'ôter votre voile, mais bon, l'intervention durera que 2 heures maximum, vous pourrez le remettre à la sortie. Et donc à ce moment-là, j'ai juste répondu non. Donc je suis sortie, j'ai vraiment gardé mon sang-froid et honnêtement en fait en attendant le bus, enfin j'ai pleuré en fait. C'est là où je me suis dit ok, enfin ça commençait à devenir vital et c'était très fatigant et j'en pouvais vraiment plus. Du coup, enfin j'avais une coiffeuse sur Strasbourg, j'allais la voir tous les 4 mois je pense. Et au moment de sortir, ben, j'ai décidé de ne pas le porter. Je suis allée prendre le tram pour aller à la gare et en fait là, personne ne me regardait. J'étais vraiment invisible et je me suis dit, mais waouh. Du côté de ma famille, ils étaient très déçus. J'avais tellement accompli en fait avec mon voile et niveau représentation, surtout d'où je venais en fait, d'avoir eu son bac, d'être allée à l'université... C'est surtout ma mère, en fait. Ma mère était très déçue. Je sais que ma grand-mère, elle a même pleuré. Et en fait, elles étaient toutes conscientes des raisons pour lesquelles je l'avais ôté. Mais non, ça a été dur pour ma famille aussi, en fait, de se dire que, en fait, on est arrivé à ce moment-là où on peut pas avoir la paix juste en étant soi-même, quoi. Donc, je regrette pas de l'avoir ôté, même si aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque. Ça me manque de porter le voile.
C'était Le voile, la liberté de le porter ou pas, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Cécile Lafont. Merci à Camille, à Stéphanie, à Selma, à Mariam, à Assia, à Taous et à Samra. Merci également à Léa de l'Alliance citoyenne de l'agglomération grenobloise. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.